leur mémoire de disparu. Bon. Notre confrontation et la guerre ne s'est pas seulement située en 1939, mais au moment où, ayant mûri de quelques années de plus, nous avons été confrontés à l'occupant, arrêté puis déporté. La question étant cependant posée par rapport à 1939, pour ma part, en 1939, je n'avais que 15 ans. 15 ans, c'est déjà un âge suffisant pour ressentir la honte de la défaite et l'humiliation de l'occupation, car en juin 1940, l'ennemi, l'occupant, est partout. Et à considérer que, au regard de ces deux sentiments, indignation et honte, ce sont les jeunes qui se sont montrés les plus réactifs, mais ça ne vous surprend pas. Les jeunes, dans une population, sont toujours ceux qui sont les plus réactifs contre l'injustice, contre l'oppression, contre la dictature. Les événements qui se déroulent en Afrique du Nord en sont une nouvelle preuve, mais on trouve tout au long de l'histoire des situations semblables où les jeunes ont été à la pointe du combat. Ce qui nous a mortifiés à nous, jeunes, alors que nous étions convaincus de la nécessité de nous engager et de mener un combat contre l'occupant, d'apporter notre participation sans trop savoir laquelle, en vue de bouter l'ennemi hors de France, de concourir à notre faible mesure à l'écrasement du nazisme. Notre mortification, c'était de constater que les adultes, en France, ceux qui avaient 25 ans, 30 ans de plus que nous, notamment les anciens combattants, ils nous précédaient d'une génération, finalement, n'ont pas fait apparaître des hostilités particulières à l'égard de l'occupant, se sont employés à s'accommoder de l'occupation, mais en aucune façon, du moins dans les trois premières années, en aucune façon n'ont entrepris une action contre l'occupant. Donc, c'est cet état d'esprit que je viens de vous définir succinctement qui a déterminé l'engagement qui fait sans doute l'objet d'une question suivante.
Monsieur Rebeau.
Question suivante.
Pour Monsieur Rebeau, vous pouvez être vous. Oui, mais peut-être que M. Zabel veut dire.
Il ne serait pas facile de répondre à deux ou à toutes les questions.
Je veux dire quelque chose de plus sur ce 39. 39. En comprenant ce qu'a dit mon camarade, moi, maintenant, les années venues, je pense que notre pays a été trahi. Un général allemand a dit que le soldat français s'était battu vaillamment. En un an, en quelques mois, en quelques semaines, il y a eu davantage de morts chaque jour que pendant la guerre de 14-18. Nous avons remporté quelques maigres victoires, mais dû surtout au courage. Et je me pose la question, cette défaite, dans l'esprit de ce qu'ont mené cette guerre de vaincus, est-ce qu'elle n'était pas programmée déjà? Comment un homme comme le général Pétain, auréolé de toute sa gloire dans la guerre de 14-18, a pu, en octobre 40, à la serrer la main d'Hitler à Montoire? Comment a-t-il pu, lui, avec son acolyte Laval, dire: nous mettons à votre disposition la police et la gendarmerie et les groupes mobiles de réserve à votre disposition pour asseoir votre autorité en plus de votre police, de votre faible gendarmerie et de votre Gestapo. Comment a-t-il pu cet homme, s'il n'avait pas déjà dans la tête l'esprit de trahir le pays, comment pouvait-il faire pour maintenir un semblant de résistance? N'oublions pas que cette guerre a été, la campagne de France a été liquidée en quelques semaines, que la guerre civile espagnole, a servi de laboratoire grandeur nature, dans laquelle les dictatures italiennes et allemandes ont mis au point leur nouvel armement, armement tenant compte des derniers progrès des dernières techniques. Avec cet armement-là qu'ils ont essayé dans cette guerre civile espagnole, ils ont pu mettre au point l'extermination, pas de la guerre entre soldats, de la guerre contre les populations. Souvenez-vous de Guernica. Guernica, j'avais 15 ans. C'est là que je me suis déterminé, car j'ai compris que si on n'était pas nazi, notre vie c'était zéro. Guernica, aucun but stratégique à détruire, rien. Simplement, voir des possibilités de destruction qu'elle avait. Jour de marché, la ville est bombardée, 3 heures durant, 2 enquêtes et des avions, des Stuka, des bombardiers mitrailleurs en piqué. Eh bien, c'est ce qu'a subi en juin ceux de l'exode sur les routes de France. Ils étaient mitraillés de la même manière, combien de femmes, d'hommes, d'enfants, de bébés ont été exterminés le long des routes au cours de cet exode. Donc, c'était déjà, compte tenu des enseignements que nous avions eus déjà, c'était déjà une trahison que d'avoir mené le pays à une guerre pour laquelle nous n'étions pas prêts.
Autre question, s'il vous plaît.
Bonjour. Quand et pourquoi êtes-vous entré dans la résistance ?
Alors, une question sur quand êtes-vous entré en résistance et alors pourquoi vous l'avez expliqué ? Et peut-être pour compléter, donc quand êtes-vous entré en résistance et quel a été votre rôle et les actions que vous y avez menées ?
Dans les années 40 et 41, alors que la France en fin 41 est déjà occupée depuis un an et demi, que l'occupant a déjà donné la mesure de sa brutalité, que des fusillades ont eu lieu notamment à Souches dès octobre 41, il n'y avait pas, malgré tout cela, il n'y avait pas d'organisation de résistance constituée. Il y avait ça et là des résistants, indubitablement résistants dans leur cœur, dans leur esprit, qui avaient la volonté d'agir, mais qui étaient neutralisé par leur isolement. Il a fallu qu'au fil du temps, le nombre des personnes, hommes et femmes, possédant en eux cet état d'esprit, Lucie Aubrac a dit que la résistance était avant tout un état d'esprit, il avait fortement raison. Il a fallu que ce nombre s'accroisse pour que les premiers mouvements apparaissent. Et pour répondre à la question qui nous est posée personnellement, en fin 41, je suis à Jonzac, je viens de terminer des études qui ont été singulièrement bousculées par l'occupation, et j'entends m'engager dans le mouvement de résistance. Mais lequel, où le trouver, et y en a-t-il surtout ? La bonne fortune me sourit quand je rencontre un camarade de Jonzac, plus âgé que moi, dont je connaissais les opinions politiques, qui ne pouvaient donc qu'être opposés à l'occupation, opposés à l'idéologie nazie. Nous prenons contact et j'accède spontanément à sa demande d'agir dans une organisation. Il s'agissait du Front National pour la Libération et l'Indépendance de la France, qui se constituait en Charente-Maritime, l'épicentre se situant à Saintes, c'était l'œuvre d'un groupe de cheminots particulièrement expérimenté en matière de vie clandestine et marqué par une très forte combativité. Et nous nous sommes retrouvés ainsi, peu nombreux, une quinzaine, pour l'arrondissement de Jonzac. Nous sommes en début d'année 42. Et nous ne sommes que 15, des jeunes, entre 17 et 23 ans. J'ai pour ma part 18 ans. Ces jeunes, qui sont dans l'essence de notre groupe, ils vont accomplir les actes, ça va peut-être l'objet d'une question, les actes qui leur seront demandés et sur lesquels nous allons revenir tout à l'heure. Donc, organisés de la sorte, nous faisons ce qui nous est possible de faire avec nos faibles moyens, avec notre incompétence qu'essaie de suppléer notre totale bonne volonté. Voilà donc dans quelles conditions, pour ma part, mon engagement s'est effectué dans la résistance en fin décembre 1941 et a pris plus de consistance en décembre 1942. Une action malheureusement, un engagement malheureusement, qui n'allait durer que quelques mois, puisque nous verrons tout à l'heure, l'arrestation est survenue qui a neutralisé l'ensemble du mouvement.
Personnellement, mes parents étaient des frontaliers espagnols. Papa est venu en France à la fin du 19e siècle et maman au début du 20e. Je suis né en 22 à Bègles. Je suis fils d'étranger. Déjà en butte, il y a déjà des difficultés économiques. Et quand il y a des difficultés économiques, il faut toujours trouver un mouton noir. En l'occurrence, c'était étranger. Ce fut bon pour les Italiens, les macaronis, pour les Espagnols, les sales espadres, etc. Remarquez, ce n'est pas particulier à la France, parce qu'à l'âge de 7 ans, j'étais dans un village près de la frontière espagnole, en Espagne, où on ne pouvait y accéder qu'après 2 heures à dos de mulet, et là-bas, je me faisais traiter de sale race de Français par les gamins espagnols. Là-dessus, je vous ai dit que ma décision a été prise au cours de Guernica. Ma décision fut prise de ne jamais faire quoi que ce soit pour l'occupant. L'occupant, c'était pas politique, ce n'était pas confessionnel, c'était un rejet quasiment physique que j'avais de lui. J'avais aussi entendu parler des réfugiés espagnols. Alors j'avais mon idée là-dessus. Mes parents étaient âgés. Papa amputé d'une jambe, il était sandalier. Dans l'espagnol, il avait appelé le métier de sandalier. Maman avait la bosse des affaires, malgré la peu d'instruction qu'elle avait acquis là-bas en ce temps-là. Et à 2 reprises, mes parents m'ont empêché de partir. Parlant l'espagnol, je pensais qu'une fois en Espagne, j'arriverais toujours à me débrouiller. Faux. Il y a le camp de Miranda. Il y a des camarades qui étaient comme moi, fils étrangers, qui parlaient l'espagnol, qui étaient au camp de Miranda. Ils ont été changés contre des sacs de blé ou contre du matériel dont on avait grandement besoin dans l'Espagne, qui était exempt de sortir de sa guerre civile. Je vous ai dit que ça avait servi de laboratoire à grandeur nature. Et ils arrivent. On était déjà avertis par tous ces Espagnols réfugiés qui venaient au petit commerce que tenait maman et qui nous parlaient déjà des situations. Disons que l'avenir était sombre. Vous, en ce moment, vous posez une question, quel sera mon avenir? Et je comprends votre inquiétude. Mais nous, à votre âge, quelle était notre question essentielle? Est-ce que j'aurai droit à un avenir?
D'un côté, les conditions de ton engagement.
Les conditions de mon engagement, partant de là, je reçois un feuille pour tot, service du travail obligatoire, STO. Mais tant que je vais de ne pas travailler pour eux, je m'y refuse. J'ai déjà laissé passer 2 occasions, je vous ai dit pourquoi. Et 3 jours après, le camion devait passer nous prendre à la levée du couvre-feu à 6h du matin. Dans mon quartier, on était 6 ou 7 à avoir reçu la feuille. On allait tous partir, on allait tous se bagarrer contre l'occupant, faire ceci, faire cela. Tout compte fait, il y en a qu'un qui est parti avec sa bicyclette. Tout seul, j'étais. J'ai passé à une débarcation du côté de Langon, en rase campagne. Je connaissais les paysans qui m'ont dit la ronde, elle passe toutes les 10 minutes à peu près. dès que le, qu'ils ont disparu derrière la bosse de la route, tu as ce petit chemin en face, le ruisseau à 200 mètres, tu es en zone libre. Moi j'attends, j'ai mon vélo, et je m'engage dans ce petit chemin de terre battue. Et il est barré avec une pancarte, lieu d'évacuation, interdiction de passer. 200 mètres de zone rouge, c'est-à-dire qu'il y a dépassé le pont, pendant 200 mètres on peut vous tirer dessus. J'ai une dame qui m'a donné les coordonnées d'une personne dans la résistance. Mon camarade a dit qu'il connaissait un résistant qu'il avait sollicité. Bon, moi je ne connaissais personne. Sauf cette dame-là qui me dit, dans la Haute-Loire, je connais quelqu'un qui est responsable d'un maquis. Si tu veux, je peux te... Alors, bien sûr que j'accepte. Je pars à vélo, la ligne de démarcation franchie, je pars jusqu'à Toulouse, où j'ai des cousins éloignés. Là, tous les mois, le ravitaillement. On vous demande de vos papiers. Et j'ai passé à l'année en fraude, je n'ai pas d'autorisation allemande pour la passer. Donc, je suis recherché par la police française et allemande. Les polices françaises. Mes cousins me disent, à Toulouse, grande agglomération, on veut bien t'héberger, mais pour manger, comment faire? Les conditions ici. Alors, ceux qui étaient en transit par Toulouse avaient un bureau dans lequel ils devaient se présenter pour obtenir un titre d'alimentation pour le mois. On vous découpe un ticket d'un carnet et à la place, on vous donne toutes les feuilles de tous les produits alimentaires, de viande, de gibier, de volaille, de poisson, de légumes secs, de café, de beurre, tout ce que vous voulez. Tout est rationné. Les vêtements, c'est rationné, il y a des points textiles. Par exemple, vous avez su le paire de chaussettes, c'est, je ne me souviens plus, tant de points textiles. Quand vous n'en avez plus, à vous de vous débrouiller. Les chaussures, vous avez droit à deux tickets par mois, par an que vous allez chercher à la mairie. Une paire de chaussures légères pour l'été, une paire de chaussures pour l'hiver. Une ménagère a besoin d'une casserole. Il faut qu'elle aille à la mairie demander un bon matériel. Car le fer, c'est du matériel de guerre. Toutes les industries françaises qui ne travaillent pas pour l'occupant n'ont plus de matière première pour travailler. Donc, j'arrive là, à Toulouse. Je fais le temps jusqu'à Ghana. J'abrège parce qu'il n'y aurait pas à me tenir le jour entier. À Ghana, je contacte la personne indiquée. Je suis un tel. Je sais, tu viens de la parole d'un une telle. Il nous l'a dit. Je connaissais quelqu'un, moi je connaissais personne. À un mois et demi de cavale recherché par les polices, j'ai eu droit à deux phrases. Full camp, nous sommes surveillés. Et avec des moyens de fortune, en repassant les démarcations, à plus mille de péripéties, je me retrouve en gare dans la ville de Pau. Un coup de chance, je tombe sur une connaissance qui admet de son cousin qui habite Pau de m'héberger la nuit. Donc, je dois partir avant la levée du jour et je ne rentre qu'à la nuit tombée, en février 43. Grâce au ticket que m'a remis à la salle des Jacobins, une femme généreuse qui voya que j'étais en cavale, m'a remis quand même tous mes titres d'alimentation. Je n'avais pas de laisser passer. Et entre les dames, elle m'a dit, partez vite et bonne chance. Rien que pour celle, risquer le camp de Ravensbrück, où sur 8000 femmes qui ont été, 9000 femmes qui ont été internées là-bas, 4000 sont mortes. Et le midi, grâce à mes tickets, je vais manger au restaurant. Avec les tickets dans les restaurants, on se lève avec la faim au ventre, croyez-moi. Et je vois deux Normands, trois Normands, qui discutent entre eux. Inconscience de la jeunesse, j'ai mon sac à dos, je suis vêtu chaudement, j'ai des brodequins de montagne. L'année avant, j'avais fait les Pyrénées. Et je vois ces trois Normands qui ont le même équipement que moi. Ça se voit comme le nez sur la figure que nous sommes des jeunes en cavale. Nous ne sommes pas en complémentation avec le parapluie, non. On est équipés pour affronter la neige et le gros temps pour passer les Pyrénées. Et ces deux patients me disent, oui, on vient te prendre en charge, Mais t'as l'argent, je dis combien ça coûte. Il y a eu des passeurs qui ont fait ça à l'œil. D'autres se sont fait payer. D'autres, après s'être fait payer, ont abandonné leurs gens dans la montagne et dit merde-toi. Excusez l'expression. Je dis, combien ça coûte? 3000 francs. Aussitôt, en février 43, je lui fais la remarque que c'est exagéré une telle somme. Il me dit, oui, mais on te fait ça sur document officiel. D'après eux, c'était le document officiel. Donc, on te fait les cartes d'identité. On te porte 2 ans plus jeune, l'un de les plus ressensables pour le STO. On te porte interne dans un collège à Pau. Et tu vas avoir avec un télégramme émanant d'un centre médical de Cambo-les-Bains, où on soigne les maladies pulmonaires. Disant, tente gravement malade de venir au plus vite. Suite à ce télégramme, j'ai un papier du directeur, vrai ou faux, je ne sais pas, par lequel il m'accorde 3 jours de congé exceptionnel pour aller voir cette tante. Avec ça, ils me disent qu'ils veulent la Gestapo pour obtenir un laissez-passer, car c'est zone interdite. J'y vais. Et je reviens avec mes papiers. Bon, tu prends le train de demain, le train de telle heure. Et tu achètes ce livre, qui me dit un livre à couverture jaune, qui porte en titre rouge Africa. C'est un signe de reconnaissance avec le passeur qui t'attendra sur le quai de la gare à Cambo. Et moi, bien sûr, il y aura toutes les astuces et toutes les magouilles qui peuvent se faire. Je suis tout heureux d'être ici pour la libération. Demain, je vais être en Espagne. Et peut-être, dans quelques jours, en Afrique du Nord. Il passe le service de sécurité allemand dans le train. À tout moment, on peut vous demander vos papiers n'importe où. Il a une plaque pectorale. Papier. Moi, je lui donne tout. Et je me sens d'autant plus en confiance que j'ai un laissez-passer officiel des autorités allemandes. Lui, de sa veste, il sort un portefeuille. Il y avait 5 ou 6 photos dedans. Il y avait une photo sur la fausse carte d'identité. Notre photo était au bout des bras de l'Allemand qui m'a interpellé. J'étais arrêté, bien sûr, interrogé par un Allemand à Saint-Jean-Pied-le-Port. Par quel moyen êtes-vous venu jusque-là? Et moi, sur le coup de la colère de ces deux Français qui m'avaient vendu, je lui dis, pouvez-vous me dire, question pour question, pouvez-vous me dire le nom de ces deux salauds qui ont revu en photo à votre collègue qui m'a interpellé dans le train? Ce qui m'a valu une baffe majestueuse. Et merci mon Dieu, ça m'a évité un de ces interrogatoires parfois trop poussés qui laissaient le gars dans un état lamentable, sinon mort. Je n'ai pas subi, là-dessus bien sûr, si c'était avec le Saint-Jean-Pied-de-Port, caserne Boudet à Bordeaux, où j'ai connu la faim et la peur, et la vermine, et le manque d'hygiène, la peur. La faim, on s'y habitue. La peur, on la vit en permanence. Les pas dans le couloir, la serrure qui grince, et on appelle un des nôtres, un tel, qui y va. À la caserne Boudet à Bordeaux, il y a une chapelle qui a été transformée en lieu d'interrogatoire. Tous les gens reviennent dans un état lamentable où ils ne reviennent pas. De là, Compiègne, caserne Boudet, Compiègne, au cas de voyage lieu, je vous explique le départ et les cas de concentration. Je n'ai pas pu faire de résistance, ils m'ont ramassé avant, j'étais là, en cas je me rappelle.